La séquence du médiateur, Bruno Denas.
Voilà, à Bruno Denas, c'est à vous Bruno.
Merci Sonia et puis bonjour à tous pour la séquence mensuelle du médiateur ouverte aux questions des auditeurs. L'attentat de Trèbes, mais aussi l'homéopathie, deux sujets totalement différents, ça c'est sûr, mais qui ont suscité une avalanche de réactions, de questions. Alors nous recevrons Jean-Claude Amezen, mais tout de suite bonjour Jean-Philippe Deniau.
Bonjour Bruno.
Vous êtes le chef du service police-justice de France Inter. Les auditeurs ont beaucoup commenté et réagi à l'attentat commis il y a une semaine. Ce qui revient le plus souvent, comme à chaque attentat, est la question du nom du terroriste. Il y a ceux qui voudraient l'anonymisation complète et ceux plus nombreux comme Isabelle qui nous disent « Je comprends très bien votre traitement de l'attaque terroriste. En revanche, je n'admets pas que le nom du terroriste soit prononcé en permanence et même parfois plusieurs fois dans une même phrase. » Hubert ajoute « Lors de l'hommage national, le chef de l'État demande que le nom du terroriste soit ignoré et juste après, le présentateur du journal ne cesse de le prononcer. » C'est utile cette répétition du nom ?
Alors si vous me posez la question comme ça, je vais vous répondre non, il n'est jamais utile de faire des répétitions, mais après la vraie question c'est faut-il ignorer le nom de l'auteur d'un attentat ? Alors apparemment ça ne fait pas l'unanimité même au sein de l'exécutif, puisque si nous journalistes connaissons dès vendredi après-midi le nom du terroriste de Carcassonne, c'est grâce à Gérard Collomb.
Ah oui.
Le ministre de l'Intérieur, c'est lui le premier qui révèle donc publiquement lors d'un point presse donné à Trèbes à 15h15. Le nom du terroriste.
Le terroriste s'appelait Redouane Lagdim. Il avait 26 ans.
Alors après l'attentat de Nice, des centaines de messages reçus par le médiateur, les rédactions des différentes chaînes de Radio France avaient adopté une charte refusant entre autres justement l'anonymisation des terroristes.
Oui. On s'est beaucoup posé la question à l'époque. Alors, d'un côté, révéler l'identité d'un terroriste, c'est bien évidemment lui assurer une sorte de gloire posthume. C'est un peu ce que le terroriste attend d'ailleurs. Mais je crois que la question essentielle qu'on doit se poser, question essentielle du journaliste, pourquoi ne pas donner une information que l'on détient ? Quel sens donne-t-on à chaque fois qu'on retient une information ?
D'autant que c'est une information, le nom d'un terroriste.
Exactement. Puis dans le contexte précis des attentats, comment voulez-vous que les patronymes soient jamais connus ? En quoi le fait de connaître, par exemple, le nom de Mohamed Merah a-t-il changé quelque chose au traitement journalistique ou judiciaire de l'affaire du tueur de Toulouse et de Montauban ? Est-ce que ça a changé aussi la perception que le grand public peut avoir de l'horreur des faits qui ont été commis ? Et puis, question pratique, comment est-ce qu'on aurait pu rendre compte du procès de l'affaire Merah, enfin de l'affaire M, qui s'est déroulée devant la cour d'assises spéciale à l'automne dernier ? Encore une question, Bruno, quitte à anonymiser les auteurs d'attentats, est-ce qu'il ne faudrait pas, à partir de là, anonymiser tous les auteurs de crimes quels qu'ils soient. Donc, notre position à Radio France, c'est de ne pas renoncer à publier les noms des terroristes, aussi parce que l'inverse serait peut-être une censure dont nous ne saurions pas mesurer les conséquences et qui conduirait immanquablement à alimenter les adeptes des théories du complot.
Ouais, exactement. Puis alors, il y a un autre point qui a choqué un certain nombre d'auditeurs. Vous avez fourni, disent-ils, des informations utiles pour les prochains terroristes. Mathilde, par exemple, nous dit « Je suis effaré de l'inconscience quasi-criminelle des journalistes. Ils expliquent que le malheureux gendarme avait laissé son portable allumé pour guider ses collègues. » Alors précisons qu'il n'y a pas que France Inter qui a donné cette information. Alors est-ce qu'on peut dire que désormais les terroristes savent qu'il faut détruire tous les téléphones portables d'otages ?
Je ne sais pas si on doit parler déjà d'inconscience quasi criminel, faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais bon, si cette information a été donnée, et si nous ne sommes pas les seuls à l'avoir donnée, Bruno, c'est grâce à qui ? Je vous le donne en mille.
Le même, non ?
Grâce à Gérard Collomb, parfaitement. Nous sommes toujours à la même conférence de presse, vendredi dernier, 15h15, à Trèbes.
Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table, et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qui s'est passé, et c'est lorsque l'on a entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu.
Et puis enfin, rapidement, il y a plusieurs auditeurs qui se demandent comment vous obteniez vos informations pendant l'opération et si vous aviez les moyens de les vérifier.
Oui, les informations, en tout cas, elles nous parviennent de nombreuses sources qui vont du témoin à l'enquêteur. Mais bien sûr, toute la difficulté, c'est d'obtenir des vérifications et pas seulement des recoupements. Hein. Encore une fois, j'insiste bien, c'est notre grosse difficulté au service enquête justice de France Inter. C'est de ne pas aller trop vite, de retenir la diffusion à l'antenne d'une information tant que nous ne l'avons pas vraiment vérifiée. parler, même si d'autres médias la donnent, et puis garder ce recul pour peser les conséquences de la diffusion de certains détails qu'on pourrait se voir reprocher, à juste titre d'ailleurs parfois, mais on essaie de garder notre vigilance.
Voilà, parfois il vaut mieux perdre quelques minutes en fait.
Absolument.
Merci Jean-Philippe Degnaud, donc chef du service police-justice de France Inter, pour toutes ces précisions. Alors, parlons à présent santé. Un sujet qui peut être très clivant si on en juge par le nombre de messages reçus ces dernières semaines. Jean-Claude Amezen, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le producteur de la superbe émission du samedi sur les épaules de Darwin, mais vous êtes surtout médecin, chercheur et président d'honneur du comité consultatif national d'éthique. L'éditorial de Mathieu Vidard, puis le téléphone sonne consacré à l'homéopathie ont déclenché une vague considérable de réactions, tout cela après la tribune publiée dans le Figaro par 124 professionnels de santé qui demandaient l'exclusion des médecines alternatives du champ médical. Mathieu Vidard estimait que l'homéopathie pouvait quand même apporter des bienfaits, tout en précisant qu'aucune étude scientifique n'a prouvé une quelconque efficacité. Alors Jean-Claude, peut-on encore parler de tels sujets sereinement et scientifiquement ?
Alors il faut parler de tels sujets sereinement, scientifiquement et humainement. À ma connaissance, aucune étude scientifique n'a en effet montré l'efficacité des produits homéopathiques en tant que tels. Mais elle a montré l'efficacité d'un effet qu'on appelle l'effet placebo. Mmh. Et qui est le fait que lorsqu'on a confiance, lorsque le médecin a confiance, eh bien le corps trouve les moyens de soulager, de sécréter un certain nombre de produits, et sans les effets secondaires de médicaments. C'est quelque chose qui marche même, il y a des études américaines qui le montrent. Quand la personne sait que ce qu'on lui donne, c'est un placebo, c'est-à-dire un produit, un peu de farine, mais que le médecin pense que le fait de prendre ce rien va aider le corps et la personne à se sentir mieux. Alors il est évident que ça marche pour des troubles psychosomatiques, pour des troubles qu'on dit fonctionnels, pour certaines douleurs, mais pas pour des maladies graves.
Pas pour le cancer.
Oui, et pas pour toute une série de maladies où seuls des médicaments peuvent être efficaces. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se soigner tout seul. C'est pour ça qu'il faut voir un médecin qui peut faire un diagnostic, qui peut savoir ce qu'il convient de faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de médecine douce alternative, mais complémentaire. Elles ne peuvent être conçues que en plus. C'est un soin qui est donné à la place de ou en plus d'un traitement. Et je crois que beaucoup de personnes vont voir un homéopathe ou d'autres médecins à cause du temps qui va être pris, du dialogue, de l'information.
Oui, c'est parfois le reproche qui est fait à certains médecins, c'est de pas vraiment écouter le patient.
C'est que la médecine, ça ne consiste pas simplement à prescrire. Ça demande du temps. Le temps est un soin. Et donc, prendre en compte la singularité, la subjectivité de la personne est importante. Et je crois que ça nous dit quelque chose sur ce manque dans la médecine classique. Et je dirais qu'il y a une illustration tragique qui est sur lequel le Comité consultatif national d'éthique a beaucoup travaillé, qui est le déficit dans notre pays, par exemple, d'accès aux soins palliatifs, où là encore, ce qui compte, c'est l'accompagnement, le soulagement de la souffrance, la prise en compte de la personne. Donc je crois que c'est un message important. Et encore une fois, il faut pouvoir réfléchir, discuter et comprendre.
Alors il y a un autre sujet qui me vaut aussi beaucoup de messages, ce sont les messages d'anti-vaccins. En fait, le principal reproche qui nous est adressé, vous soutenez les lobbies pharmaceutiques et donc des produits dangereux, mais qui rapportent beaucoup d'argent aux labos. Comment expliquer qu'il s'agit en fait d'une question de santé publique ?
Alors c'est une question de santé publique parce que les vaccins, ce qui est remarquable, c'est que c'est apprendre au corps à lutter lui-même contre les microbes. C'est de la prévention et dans notre pays, 95% de notre budget de santé publique est consacré à la réparation des maladies et 5% seulement à la prévention. Donc on n'a pas de culture de prévention, c'est quelque chose d'important.
C'est inquiétant d'ailleurs.
Alors, savoir que les vaccins sont efficaces, il y a une illustration tragique. C'est la mortalité des enfants dans les pays pauvres lorsqu'ils ne disposent pas de vaccins. Donc on sait que les vaccins sont efficaces. Maintenant, les vaccins, c'est quelque chose de compliqué qu'il faut comprendre. Un vaccin ne protège qu'une partie des personnes. Et c'est pour ça que quand il y a des maladies transmissibles, ça n'est que lorsque 95% des personnes sont vaccinés que la maladie transmissible va s'arrêter de se propager. Mais il y a différents vaccins. Un vaccin antitétanique, ça protège la personne, ça ne protège pas les autres. Donc il faut comprendre qu'il y a différents vaccins qui ont différents effets. Et là encore, je crois que une des raisons du manque de confiance, c'est que la médecine, depuis quelques dizaines d'années, est allée vers le dialogue, la réflexion, la responsabilisation. C'est la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner. Les vaccins, on est resté dans une mentalité du 19e siècle, la découverte des vaccins, Pasteur. Et ça reste sous forme d'injonction, d'obligation. Donc là encore, je crois qu'il y a un manque de dialogue, d'information.
De communication, en fait.
Oui, et il y a surtout des opinions, des convictions, là où il faut de l'information et du dialogue.
Merci Jean-Claude Amezen. On vous retrouve évidemment samedi à 11h dans votre émission Sur les épaules de Darwin. Prochain rendez-vous du Médiateur dans un mois. D'ici là, continuez à réagir sur notre site médiateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter.